Je présente donc Marie Darrieussecq. Je lui ai laissé choisir son sujet. Je lui ai dit de faire quelque chose. Et elle a bien voulu accepter, très volontiers. Alors, je vous lis sa biographie. C'est elle qui nous l'a donnée. C'est déjà de la littérature. Elle est née en 1969 aux Pays-Bas. En 1971, l'entreprise familiale de Gouda fait faillite, ce qui produit déménagement et traumatisme. 72, école maternelle. En 73, elle a son premier coup de foudre. En 74, après un an de lutte acharnée, ses parents réussissent à la faire entrer avec un an d'avance à l'école primaire. Mais en 75, elle redouble. En 76, elle fait du vélo sans petit trou. En 77, il y a eu un épisode relativement mystérieux qui s'appelle le fromage blanc. En 80, elle a un apprentissage difficile des verbes irréguliers. En 82, elle est lauréate du grand concours de nouvelles de la ville de Bayonne, sa ville d'adoption. 84, c'est une grande année d'initiation où elle se met à fumer. En 85, elle devient l'égérie, je suppose c'était un groupe, il s'appelle les suppositoires. Mais il paraît que ça, c'est vrai. En 86, elle passe son baccalauréat et elle obtient son baccalauréat de mathématiques. En 87, elle arrête de fumer. En 88, elle se brouille avec Géraldine. En 90, elle voyage aux États-Unis. Mais à Boston, elle quitte Nicolas. En 91, elle a un deuxième coup de foudre. En 96, elle publie Truisme aux éditions POL, mais elle se remet à fumer. En 98, c'est La naissance des fantômes chez POL. 99, Le mal d'Homère et Précision sur les vagues, édition POL. Bon, ben, je m'aperçois que, de fil en aiguille, j'ai donné ses publications. Donc, voilà, je lui donne... Bon, vous connaissez Truisme, vous connaissez Le mal d'Homère, Précision sur les vagues. Je suppose qu'il y aura bientôt des suites. Je vais lui laisser la parole pour parler du style. Qu'est-ce que le style ? Et puis après, elle répondra à vos questions selon le rituel consacré. Merci.
Ah, ça, c'est la puissance d'Internet, parce que j'en avais assez qu'on me demande mon CV, et donc j'ai balancé ça, qui est complètement fantaisiste, sur le site de POL. Et alors depuis, Internet, ça circule. Donc voilà, je ne maîtrise plus rien. Donc, j'avais envie de vous parler du style. Effectivement, Yves Michaud m'a dit de faire ce que je voulais. Et j'ai eu envie de ce sujet, qu'est-ce que le style, qui est un sujet invraisemblable, parce que c'est un mot très flou, très vaste, un mot d'ailleurs assez désuet. On va en parler. Et puis, tout simplement parce que je ne sais pas ce que c'est le style. Enfin, je me suis dit, tant qu'à travailler, autant prendre vraiment une notion qui m'échappe. Je ne sais pas comment définir ce mot. C'est un mot qui m'intrigue et dont j'entends souvent parler par mon métier. Donc j'ai commencé par regarder les dictionnaires. Donc style, manière d'écrire, c'est la définition qu'on trouve d'abord. Et on apprend que style, étymologiquement, vient de stylus, qui était la pointe qu'utilisaient les Romains pour graver leurs plaques de cire. Et puis ensuite, dans les dictionnaires, la définition se diversifie pour aborder tous les domaines de l'esthétique. Alors effectivement, on parle de style en ameublement, en mode, en architecture, en peinture. On peut aussi en parler même pour caractériser la psychologie des individus, etc. Donc en tant qu'écrivain, je m'en tiendrai au stylus, à ce qui touche à l'écriture. J'aurais aussi à dire un mot de la stylistique, telle que l'a illustré au départ Léo Spitzer avec ses études de style. Je laisserai à la stylistique le soin d'analyser ces manières d'écrire de l'intérieur, comme on démonte des mécaniques. Parce qu'ici, je voudrais m'intéresser au mot de style. Je voudrais prendre ce mot à bras-le-corps. Parce que c'est un mot, si ce mot m'intrigue, c'est effectivement parce qu'il est flou, parce qu'on dirait qu'il creuse un espace vacant dans le vocabulaire. C'est une sorte de non-lieu du vocabulaire. C'est un mot que tout le monde emploie, mais de là à le définir, c'est ce que j'aimerais essayer de faire aujourd'hui. Alors on a bien sûr le fameux « le style, c'est l'homme même » de Buffon dans son discours. Alors, c'est une phrase comme ça qui nous a, dont on a hérité avec notre culture. Mais depuis Buffon, beaucoup de choses ont été dites. Et en fait, me suis-je aperçue, pas tant que ça. Dans un premier temps, je vais essayer de, ça va être un premier temps assez technique, de passer en revue ce qui a été dit, non pas depuis Aristote, mais ai-je décidé, parce qu'il fallait bien commencer à un moment, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis que le structuralisme a essayé de dépoussiérer un peu des tas de notions et de parler des textes. C'est-à-dire, le structuralisme est une entreprise critique qui a touché bien des domaines et qui a eu pour grand mérite d'essayer de remplacer par des outils bien définis plusieurs notions encombrantes qui étaient source de confusion plus que de clarté. Et ça, c'est absolument utile pour légitimer notre droit à parler des textes. Donc, il y a eu, si je dois faire une espèce de parcours, quand j'ai fait mes études de lettres, dans les années 80, il était interdit d'utiliser des mots comme « inspiration » ou « s'exprimer ». Tous ces mots assez aériens qui viennent du 19e siècle. Et le mot « style » faisait partie un peu de ce grand ménage de mots. En hypocagne ou en cagne, dans les années 80, c'était très difficile d'utiliser ce mot dans une dissertation ou dans le langage, comme ça, un peu savant, à moins, effectivement, d'en passer par la stylistique. Et il me semble qu'aujourd'hui, ce mot, dans la critique savante, disons, est devenu très désuet et n'est plus utilisé que par, disons, les critiques des journaux. Effectivement, il suffit d'ouvrir Le Monde des livres ou Le Figaro littéraire, enfin, tous ces suppléments littéraires, on tombe très souvent sur le mot de style. Et en les lisant, je me suis aperçue qu'en fait, ce mot était mis à la place de tout ce qui pose question dans un texte. Parce que par son caractère flou, le mot de style, en fait, participe à une idéologie qui est la constante des suppléments littéraires, qui est celle du « c'est bien ou mal écrit ». Alors là, tout devient possible, on n'a plus affaire qu'au goût et aux couleurs, enfin, à des questions extrêmement subjectives. C'est le problème, à mon avis, des suppléments littéraires des journaux, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à dégager le texte du champ des forces sociales. Dans les journaux, on parle des textes, la plupart du temps, comme effectivement... En fait, sans pouvoir éliminer des luttes d'intérêts, des luttes de pouvoir, et aussi, sur un plan, disons, plus littéraire, des a priori sur les niveaux de langue. En gros, le beau ou le mauvais style. Bon, ça, ce sont des notions, en fait, de lutte, de combat, qui n'ont pas grand-chose à voir avec une étude de texte. Et donc, si on s'amuse à surligner, vous savez, au stabilobos ou au feutre, le mot de style dans les pages littéraires des journaux, j'ai l'impression quand même qu'il se creuse autant de trous d'insignifiance verbale. C'est-à-dire que ce mot de style est mis à la place de tout ce qu'on ne sait pas nommer dans la littérature. Pour l'instant, ça sera une première définition. En regard donc de cet aspect pléthorique du mot dans la critique journalistique, il me semble donc que le phénomène s'inverse quand on aborde la critique dite savante, c'est-à-dire en fait celle qui existe dans les universités. Alors j'ai passé en revue mes lectures de Cagneuse. Alors si on prend par exemple Gérard Genette ou Jean-Pierre Richard, on constate que le mot est parfois questionné, mais la plupart du temps, il est laissé de côté, voire sciemment évité. C'est assez troublant de pouvoir comme ça passer en revue des tas de livres de critique littéraire sans trouver ce mot de style. Il est évité. J'ai constaté aussi qu'il ne fait pas partie du vocabulaire, ce n'est pas étonnant, des théoriciens du nouveau roman, que ce soit Butor, Nathalie Sarotte ou Rob Grillet. Je l'ai trouvé de temps en temps chez Butor, mais là aussi c'est sous forme de questionnement, et puis on le verra dans certains de ses romans. Alors effectivement, il reste la stylistique, qui est, alors là aussi il y a eu un colloque en 90 qui s'appelait « Qu'est-ce que le style ?». La stylistique définit très peu son objet, le style, c'est un problème, on tombe sur des apories, sur des impasses. J'ai l'impression de retrouver chez les stylisticiens le même souci de définir rapidement le mot pour mieux l'évacuer, pour mieux se mettre au travail, c'est-à-dire étudier les textes comme des mécaniques, voir comment ça marche, le style, mais par hauteur, essayer de définir des constantes stylistiques par hauteur. Le mot lui-même, c'est-à-dire ce qui m'intéresse ici, est souvent mis de côté aussi. Alors si on prend par exemple un stylisticien comme Stefan Todorov, c'est assez troublant de constater que dans toute sa production critique, là aussi, le mot style n'y est pas. Et la seule occurrence que j'ai trouvée, c'est justement dans une tentative de définition, c'est l'article style de son dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Alors Todorov procède par élimination pour restreindre le champ de ce très vaste signifiant. Effectivement, il évacue d'abord les sens dont parlaient les dictionnaires, les catégories esthétiques, idéologiques, ou alors les catégories fonctionnelles, comme on dit style administratif. Et puis il en arrive au style tel qu'il nous intéresse ici, et il le définit comme, je cite, « le choix que tout texte doit opérer » parmi un certain nombre de disponibilités contenues dans la langue. Le choix que tout texte doit opérer parmi un certain nombre de disponibilités contenues dans la langue. Alors ce choix, évidemment, n'implique pas de psychologie agissante, il n'est absolument pas question d'un auteur, mais c'est plutôt l'idée d'une langue perçue comme une structure qui va déterminer l'énonciation, qui va déterminer ce qui va se dire. C'est une approche très technique qui est légitimée par le souci de bâtir des outils d'étude. Mais là encore, il me semble que le mot, une fois défini, est mis de côté comme acteur de notre langue. Une fois qu'on a défini l'objet, bon, on va se mettre au travail. La définition elle-même est un peu trop technique pour pouvoir agir dans notre discours sur les textes tels que j'essaie de le faire ici. Alors, on peut ensuite trouver plusieurs mots qui reviennent quand on parle du style. Un courant critique qui dérive de la stylistique, qui a d'ailleurs commencé par Léo Spitzer et puis des gens comme Jean Cohen ou Michel Riffater, insiste sur la notion d'écart quand il s'agit de style. Spitzer cherchait à découvrir le dénominateur commun des styles à travers, c'est son mot, les déviations que le style invente par rapport à un usage moyen de la langue. Et c'est une idée qu'on va retrouver chez Cohen, qui définit l'écart à la fois comme une infraction au code de la langue et comme un détournement de ce code. En gros, dès qu'il y a écart, il y a style. C'est-à-dire qu'on suppose une sorte de langue neutre à laquelle le style ajouterait quelque chose. Et Cohen en vient à organiser la littérature suivant son degré de style. C'est-à-dire que plus il y aurait de style, plus on s'approcherait de la poésie. En fait, il amalgame, et c'est quelque chose qu'on va retrouver, style et poésie. Je le cite, « De la prose à la poésie, et d'un état de la poésie à l'autre, la différence est seulement l'audace avec laquelle le langage utilise les procédés virtuellement inscrits dans sa structure. » C'est-à-dire que, en quelque sorte, la prose n'est qu'une poésie modérée. On pourrait presque dire poésie moins style égale prose. Et là encore, c'est la structure du langage qui détermine ce qui s'écrit, sans référence à la psyché d'un auteur. On retrouve cette idée d'audace, d'ajout, par rapport à une langue neutre de laquelle on va plus ou moins s'écarter. Et ça va produire du style. Le style est comme en surplus. Alors, corollaire à cette théorie du surplus, il y a une sorte de lieu commun symétrique qui est celui du manque. C'est quelque chose aussi qu'on va retrouver dans bien des théories critiques, le manque. En fait, ça démarre avec Mallarmé. La poésie, dit Mallarmé, c'est une phrase célèbre, rémunère le défaut des langues. En fait, il manquerait quelque chose à la langue que la poésie va essayer de combler. Donc en fait, loin d'être un écart qui force le langage, la poésie, le style, pour l'instant je m'en tiens à cet amalgame, va tirer parti de ce défaut originel et accomplir la langue. En effet, pour Mallarmé, s'il y a diversité des langues, l'anglais, l'allemand, l'arabe, c'est qu'il y a bien un défaut originel. C'est-à-dire que Babel est la preuve que le langage originel, celui qui était total, sans faille, universel, s'est perdu. Et donc, pour le retrouver, il ne reste que la poésie qui va essayer d'accomplir cette espèce d'âge d'or du langage. Et alors, ce défaut originel consiste surtout dans le fait que le signe, le mot, si vous voulez, le signe est arbitraire. Contrairement à la rêverie poétique de Cratyle, vous savez, face à Platon, Cratyle essayait de prouver que le langage était motivé de l'intérieur, un peu comme une onomatopée permanente, c'est-à-dire que le langage imite la chose, comme si, par exemple, arracher était un verbe qui rend des sons déchirants, arracher, parce qu'il arrache, ou comme si liquide rendait des sons fluides, mobiles, mouillés, parce que ça fait référence à l'eau, à ce qui coule. Ça, c'est une rêverie très belle, mais c'est faux. Et je me rappelle d'un texte que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, ça faisait partie des histoires comme ça de Kipling, où des hommes préhistoriques cherchaient à retrouver l'origine du langage et à écrire d'ailleurs l'alphabet. Et un père expliquait à sa fille que le A de carpe était motivé par l'écartement de la bouche de ce poisson. Alors c'est très beau, ça motive la poésie, mais c'est faux. Le signe est arbitraire, c'est conventionnel. Donc on se rend compte qu'effectivement... Alors il y a aussi l'exemple célèbre de Mallarmé qui déplore, je le cite, « la perversité conférant à jour comme à nuit, contradictoirement, des timbres obscurs ici, là clairs ». On a d'ailleurs un exemple du style inimitable de Mallarmé. C'est-à-dire que Mallarmé déplore que jour, qui est censé être la lumière, rende un son sombre, jour, tandis que nuit serait clair. Et en fait, là aussi, c'est une convention phonétique. On pourrait discuter de savoir si « ou » est plus sombre ou plus clair que « oui ». Et en fait, on se rend compte que Mallarmé a absolument besoin, pour écrire, de croire en une sorte de défaut originel de la langue. C'est-à-dire qu'il épuise la dynamique de sa poétique, de son style, si vous voulez. Et effectivement, je vais passer à un deuxième temps. On voit dans ce parcours critique rapide combien, en fait, dès que les auteurs, les critiques, les poètes essaient de parler de style, ils sont obligés de faire référence à la prose et à la poésie et d'amalgamer, d'aller chercher le style soit d'un côté, soit de l'autre. Comme si ces trois mots, style, prose, poésie, tournaient forcément ensemble. Et ça, à mon avis, ça ajoute à la confusion. Alors, j'ai été chercher deux critiques, bon, Roland Barthes et Gérard Genette, qui ont vraiment essayé de pousser la radicalité critique jusqu'à vouloir définir prose et poésie en opposition. Et je me suis aperçue que même dans ce souci de clarté, ils ont tous les deux besoin de la notion de style, et on peut se demander si ce recours les aide ou pas. Si je prends Genette dans un article assez célèbre de Figure 2, qui s'appelle « Langage poétique et poétique du langage », Genette reprend Cohen et admet effectivement que le style soit un écart, je le cite, « en ce sens qu'il s'éloigne du langage neutre par un certain effet de différence et d'excentricité ». Mais Genette va aussi du côté de Mallarmé en disant qu'en fait, la poésie ne serait plus tant un écart que la réduction utopique du défaut, justement. C'est-à-dire que la poésie irait bien davantage que la prose du côté de ce langage sans faille. Et alors, l'idée de Genette, c'est qu'il y a style, il y a poésie. Dès qu'il y a une marge de silence autour du langage, alors, en fait, c'est une méthode qui a commencé au moins dès Apollinaire. C'est-à-dire qu'Apollinaire, dans Zone, par exemple, va récupérer dans le discours courant, quotidien, des expressions, des mots, voire des marques, qu'il va isoler sur la page. Alors, je peux citer, par exemple, Zone. « Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. Voilà la poésie ce matin, et pour la prose, il y a les journaux. les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques, les avis à la façon des perroquets criaillent. J'aime la grâce de cette rue industrielle, située à Paris, entre la rue Aumontierville et l'avenue des Ternes. C'est-à-dire qu'on a là un des effets du style poétique d'Apollinaire, c'est-à-dire cet écart, ce silence, cette marge créée autour des mots de tous les jours, les métamorphose en poème. Pour Genette, en effet, ce serait la prose qui manifesterait le langage disjoint, au sens où elle ne chercherait pas, comme la poésie, ce rêve d'un langage motivé de A à Z. Et c'est vrai que dans cet article, on peut concevoir prose et poésie comme deux genres, encore un mot bizarre, séparés, mais cet emploi du style qui vacille du côté de la prose ou du côté de la poésie me semble en fait ajouter à la confusion. Alors si on va du côté de Barthes, le degré zéro de l'écriture est à peu près contemporain des figures. Au contraire, alors là encore, hein, ça peut paraître confus, mais c'est un mot le mot style qui circule comme ça dans la critique. Pour Barthes, au contraire, le style serait un état de grâce de la poésie au moment où la poésie se dégage de tous les discours idéologiques ou de l'emprise d'une époque. Je le cite. À ce moment-là, quand la poésie se dégage comme ça, il n'y a que des styles à travers lesquels l'homme se retourne complètement et affronte le monde objectif sans passer par aucune des figures de l'histoire ou de la sociabilité. C'est peut-être des phrases un peu complexes à lire comme ça, mais ce qui me frappe chez Barthes, c'est qu'en fait, de tous les critiques que j'ai lues ou relues, c'est le seul, à ma connaissance, après-guerre, qui se soit vraiment confronté au mot de style. Et en effet, le mot style a un sens très défini pour Barthes. Et Barthes, curieusement, alors qu'on est en pleine période structuraliste, va d'emblée associer le mot de style et le mot auteur, en distinguant trois instances de la création littéraire. Alors, il y a la langue, qui est une sorte d'horizon du possible, une sorte d'état de nature qui est donné et qui va englober toute création littéraire, un horizon. Il y a le style, qui, au même titre que la langue, serait un état de nature, une nécessité, quelque chose de non choisi, mais unique, indissociable d'un auteur. Et enfin, il y a, troisième temps, l'écriture, qui là est l'exercice de liberté de l'auteur, c'est son action, c'est la manifestation de son choix dans une société donnée. Donc langue, style, écriture. Langue, horizon du possible, style, état de nature propre à un auteur, et l'écriture, son mode d'action, son choix. Barthes fait donc une nette distinction entre le style, je le cite, produit d'une poussée et non d'une intention, et l'écriture, qui est son inscription sociale dans l'histoire. En gros, l'auteur aurait le choix de son écriture, mais pas de son style. Et là, on touche à quelque chose qui, en fait, parle à la plupart des écrivains dont j'ai parlé de cette conférence. Je vais y venir. J'ai demandé à plusieurs écrivains ce que c'était le style. Et on rejoint cette idée qu'on n'a pas le choix de son style, qu'éventuellement on a le choix de son écriture. On y reviendra. Donc l'écriture serait une façon de réfléchir la littérature, d'y prendre place en conscience. Quand le style, dit Barthes, et il y a presque quelque chose de scandaleux dans cette expression, le style, dit Barthes, a une origine biologique. Je le cite, « Des images, un débit, un lexique, naissent du corps et du passé de l'écrivain, et deviennent peu à peu les automatismes mêmes de son art. Ainsi, sous le nom de style, se forme un langage autarcique qui ne plonge que dans la mythologie personnelle et secrète de l'auteur. » Je le relis peut-être. « Des images, un débit, un lexique naissent du corps et du passé de l'écrivain et deviennent peu à peu les automatismes mêmes de son art. » Ainsi, sous le nom de style, se forme un langage autarcique qui ne plonge que dans la mythologie personnelle et secrète de l'auteur. J'aime beaucoup cet article de Roland Barthes parce qu'en pleine période structuraliste de mort de l'auteur, vous savez, c'est ce moment nécessaire d'ailleurs, presque hygiénique, où on a essayé de faire table rase de toute subjectivité, où il a fallu éliminer l'auteur pour enfin réussir à parler du texte comme structure, et où tout ce que pouvait apporter comme élucidation la vie de l'auteur a été éliminé. Je me rappelle, enfin c'est un peu anecdotique, mais de ce poème de Rimbaud, le pavillon sanglant, les fleurs arctiques, je ne sais plus quoi. Quelqu'un ici doit savoir le verbe mieux que moi. Mais en tout cas, il y avait toute une théorie qui disait que ce verbe, c'était parce que Rimbaud avait été au Danemark et qu'au Danemark, c'est bien connu, le drapeau est rouge. Ben, les fleurs arctiques, c'était la mer, là, froide, gelée, etc. Et on se retrouvait à lire Rimbaud comme des détectives, c'est-à-dire à aller puiser dans la vie de Rimbaud des éléments pour élucider ses poèmes. Et heureusement, le structuralisme nous a offert d'autres outils, c'est-à-dire de prendre les textes au pied de la lettre pour ce qu'ils disaient, sans avoir à aller chercher du côté de la vie de l'auteur. Donc c'est ça, en gros, ce qu'on a appelé la période de la mort de l'auteur. Et ce que j'aime bien avec cet article de Barthes, c'est que tout à coup, l'auteur revient. C'est-à-dire que c'est un article qui replace deux mots qui étaient devenus quasiment interdits, auteur et style, au centre du discours critique. Je dirais donc que avec cette idée-là du style, il n'est plus question d'ajout ou d'ornement que le style apporterait à une hypothétique langue neutre. Le style n'est plus en surplus, en surplomb sur la langue. Ça n'est pas non plus une infraction à la langue. Ça n'est plus la sanction d'un manque. Le style ne va pas sans l'auteur. Il est l'incarnation de l'auteur sur la page. Avec cette définition du style comme phénomène biologique, le corps, me semble-t-il, va prendre une place qu'il ne va plus quitter dans le discours sur la littérature. Je dirais que le style, c'est le corps littéraire de l'auteur. C'est un corps textuel qui est vivant et qui est continu de livre en livre. Alors j'insiste, ça n'a rien à voir avec la théorie de Sainte-Beuve qui allait chercher dans la vie biographique de l'auteur des éléments. Là, on est plus dans cette idée que ce qui s'écrit sur la page, c'est là qu'est le corps littéraire de l'auteur, son corps physique, sa psychologie dans sa vie de tous les jours, ça n'est pas très intéressant. Son corps, c'est ce qu'il va écrire. Et ça a sans doute à voir avec son style. On n'a pas le choix de son corps non plus. Effectivement, la distinction que fait Barthes entre style, d'un côté, on n'a pas le choix, et l'écriture, on a peut-être davantage le choix, cette distinction me paraît très opérante. Si on prend des auteurs comme Proust, Céline ou Thomas Bernhard, par exemple, ce sont des auteurs dont le style est détectable, si l'on peut dire, à l'œil nu. On a la fameuse longueur de phrase de Proust, on a la page très compacte de Thomas Bernhard, on a les trois points de suspension de Céline. Bon, on peut multiplier les exemples. Alors, ces auteurs-là auraient un style. Ils en ont un. Mais est-ce qu'ils en ont plus ou moins que des auteurs comme, par exemple, Butor ou Solers, qui, de livre à livre, présentent en apparence des styles très différents? Si on prend Butor de Passage de Milan au Génie du lieu, on a des pages d'aspects très différents. Et ce que les journalistes appellent peut-être hâtivement le style, c'est-à-dire l'apparence que donne aux pages, aux phrases, une lecture assez rapide, ce style-là, effectivement, change beaucoup chez Butor. On a même dans le Génie du lieu des pages entières qui sont faites de styles composites. Sur une seule phrase, on peut avoir des tas de styles différents, puisque une des techniques de Butor est d'aller citer des morceaux de journaux, de légendes, de lettres, et de composer ainsi sa page. Alors, on a évidemment aussi Solers, qui, de paradis à passion fixe, va démultiplier, en fait, ce que Barthes appelle les écritures. Et pourtant, il me semble qu'à chaque page, on peut ouvrir Solers ou Butor à n'importe quel moment. On sait qu'il s'agit là de Solers ou de Butor. Et on oublie, par exemple, que Flaubert, qui est censé être notre grand styliste national, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Bon, ah, le style de Flaubert, on le voit marcher dans sa chambre. Ben, il me semble qu'on oublie que Flaubert est quand même à la fois l'auteur de Madame Bovary, mais aussi de La Tentation de Saint-Antoine. Ce sont des écritures extrêmement différentes. Et pourtant, c'est toujours du Flaubert. Si on va chercher Joyce, de Jean de Dublin à Finnegan's Wake, ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est toujours, toujours Joyce. Alors, est-ce que ces auteurs sont des girouettes ou des schizophrènes ou des velléitaires ? Non, ils n'ont pas plus ou moins de style que ceux dont la page semble toujours recommencer. Alors, j'ai demandé à plusieurs écrivains, et puis en fait, ce désir d'aller voir des écrivains et des artistes a commencé... c'est toujours un peu comme ça quand on se met à travailler sur un sujet. On a l'impression que tout le monde se met à parler de ce sujet. Et j'ai écouté À Voix Nue sur France Culture le 15 décembre dernier. Et je suis tombée sur le peintre Jean-Michel Saint-Jouan. Il expliquait que si son œuvre est apparemment très hétéroclite et qu'elle est effectivement traversée de multiples courants, alors il s'amusait à les étiqueter à la façon des critiques, surréalisme, calligraphie, figuration libre, lyrisme abstrait, bon, il y avait des tas de courants. En fait, disait Saint-Jean, il n'avait jamais changé de style. Cette affirmation a attiré mon attention. Et Saint-Jean expliquait qu'une seule question l'avait toujours occupé, rendre compte de la complexité de l'espace. Et si les formes qu'il a employées sont diverses, c'est parce que cet espace est divers et qu'il est très complexe et qu'il faut mettre en œuvre des formes différentes pour en rendre compte. C'est toujours le même questionnement, avec des moyens différents. Et la journaliste lui opposait l'affirmation de Picabia, le style n'existe pas. Et Saint-Jean, avec beaucoup d'aplomb, disait, il y a un style Picabia. On reconnaît un Picabia à n'importe quelle époque. Le style, donc, serait la cohérence du parcours, quelles que soient les ruptures qui semblent le marquer. Et d'ailleurs, Saint-Jean se trouvait devant... parler d'une exposition qui avait retracé toute son œuvre. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il peint. Et il constatait, non sans satisfaction, que ses œuvres allaient très bien ensemble. C'est un peu comme la chanson des Beatles, vous savez. Et il disait, « Mes œuvres convergent vers quelque chose, un point qu'il faudrait définir, même si je ne sais pas dire ce que c'est, ce quelque chose. » En fait, cette interview de Saint-Jean me paraît très symptomatique à la fois de l'embarras et de la détermination des artistes face à la notion de style. En fait, l'affirmation « j'ai toujours le même style » revient pour arguer de l'authenticité ou du sérieux d'un travail. Et authenticité et sérieux sont d'ailleurs des mots extrêmement encombrants aussi, mal définis, et qui sont réclamés par ceux qu'affole justement l'apparente hétérogénéité d'un travail. Il faudrait avoir toujours le même style pour être sérieux, en quelque sorte. Et les écrivains, d'ailleurs, perçoivent souvent ce mot de style comme le prélude à une attaque. En gros, n'avoir pas le même style serait l'indice d'un manque d'être, d'un tâtonnement préjudiciable au métier d'écrire, alors que Dieu sait si on tâtonne. En bref, d'un manque de style. Donc, si l'on suit cette logique, il faudrait séparer les écrivains en deux catégories. Ceux qui font toujours le même livre, c'est une phrase consacrée, donc ceux qui auraient un style, et ceux qui font des livres différents, ceux qui n'auraient pas de style. Alors, je me demande, si on prend, par exemple, deux auteurs qui semblent, disons, avoir le même souci d'autobiographie. Si on prend Annie Ernaux et Hervé Guibert, très différents, mais... même souci d'écrire la vie d'une façon ou d'une autre. Annie Ernaux, c'est l'expression consacrée, elle creuse le même sillon. D'ailleurs, c'est souvent une expression péjorative, mais tous ses livres semblent être un peu les mêmes. Hervé Guibert, tous ses livres sont différents. Il va même jusqu'au pastiche, puisque dans « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », il fait de très longs pastiches de Thomas Bernard, justement. Alors je demande, qui est le champion de la littérature entre les deux ? Moi, il me semble que ce sont deux auteurs aussi intéressants l'un que l'autre. Alors, je vais me diriger vers des définitions peut-être moins techniques. Il me semble que le style n'est peut-être qu'un désir qui dure, un désir d'écrire, un désir de donner le monde à voir. Et s'il fallait superposer au mot de style un autre mot, je pencherais pour le mot de voix, V-O-I-X. Je dirais que le style est une voix qui insiste. Si on prend par exemple Pierre Guyotat, qui a beaucoup travaillé cette idée de voix, et dont les livres sont d'ailleurs très différents, très divers au cours de la vie, il me semble que justement ces livres prennent leur pleine cohérence et d'ailleurs leur pleine clarté quand il les dit. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'entendre en public. En fait, quand il les chante, On entend alors la voix qui parle en Guyota quand il écrit, c'est-à-dire, à mon avis, son style. Je citerai un extrait d'un livre qui s'appelle « Explications », récent, chez Léo Scher, en 2000. Ce sont des entretiens avec Marianne Alphand, où Guyota parle de son style, peut-être. Il dit « La langue d'un auteur artiste, c'est sa voix, c'est ses poumons qui lui sont donnés. C'est la vitesse innée du cœur, la vitesse de réaction du cœur enfant au monde qu'il découvre. Ce rythme a une ponctuation qui se retrouve, amplifiée bien sûr, dans les écrits adultes. Mais c'est toujours pareil, cela veut dire qu'on est toujours soi, rien qu'un homme en somme, hélas. Je ne regarde plus mes anciens écrits, mais je sais, c'est la même construction. La structure n'a pas changé, une préférence même pour certains mots, le rejet de certaines liaisons, de ce qui n'est pas matériel. » On retrouve cette idée du corps, les poumons, le cœur, le rythme. Et puis cette idée de la continuité, c'est toujours la même chose, même si ça change en apparence. Un peu plus loin, il dit « La langue d'un auteur grandit avec lui, elle fait son chemin dans son cerveau, dans son cœur et dans son corps. » Effectivement, est-ce qu'un enfant change de style parce qu'il gagne en vocabulaire, en syntaxe, en expérience même ? Est-ce que chacun en change de style, vraiment ? Si je puis me parler quelques instants de mes livres, il y a eu bien des malentendus au sujet de mon premier roman, Truisme, parce que je crois qu'on y a un peu trop vu l'aventure d'un corps. Alors que pour moi, quand je l'écrivais, c'était autant l'aventure d'un corps que l'aventure d'une voix. C'était complètement lié. C'est-à-dire que, à mesure que le corps se transformait, la voix de la narratrice se transformait. C'était assez inévitable dans son aventure à elle. C'est une voix qui se transforme, qui s'identifie, qui s'individualise pour s'extraire avec le corps, à coups de reins, des clichés de ce que j'ai appelé les truismes. C'est une voix qui trouve sa voix, si on veut. Et d'ailleurs, le livre n'a pu s'écrire que quand j'avais l'histoire, j'avais le thème, j'avais l'idée. Mais le livre n'a pu s'écrire que quand la voix s'est mise à sonner dans ma tête, cette petite voix naïve, illettrée, qui n'est pas ma voix. Ça n'est pas ma voix à moi, psychologiquement. Quand je m'écris, quand j'écris, quand je m'installe à ma table, je m'absente, justement. Ça n'est pas ma voix à moi. C'est la voix que j'entends dans ma tête. Et tous les autres livres qui ont suivi, que ce soit Naissance des fantômes, Le mal de mer, ce que j'écris en ce moment, c'est toujours l'aventure d'une voix. C'est-à-dire qu'il s'agit de trouver la voix qui correspond à ce qui va se passer dans le livre. En deux mots, dans Naissance des fantômes, c'est une voix essoufflée, haletante, qui est très coupée de virgules et de parenthèses, parce que la narratrice a perdu son centre. Donc elle le cherche au bout de phrases qui s'étirent. Elle a perdu son mari. Et c'est une voix qui est beaucoup plus oscillante, égarée aussi, mais vague, oscillante dans Le mal de mer. Où là, d'ailleurs, peut-être, comme c'est un roman à la troisième personne, on peut parler de ton plutôt que de voix ou de couleur musicale. En fait, il me semble aussi qu'on pourrait dire que le style, c'est ce que je tiens quand j'écris, ce qui est mien. C'est ce qui parle en moi, c'est cette force qui veut donner voix à ce qui n'a pas encore été dit. J'aime aussi l'idée de donner voix aux fantômes, de trouver la voix de ce qui jusque-là s'était tu. D'ailleurs, sur le plan narratif, il n'y a jamais de hasard. Les personnages, ou faut-il dire les voix, dans mes livres, luttent pour parler, pour acquérir leur voix, et corollairement pour agir. Je crois que donc l'erreur serait d'y voir de la psychologie quand ce sont des romans vocaux, mais comme beaucoup, beaucoup d'écrivains. Il me semble aussi que beaucoup d'écrivains disent que le style vient justement de l'enfance, on l'a vu avec Guyota, peut-être parce que justement l'enfance, vous savez, infance, qui ne parle pas, c'est ce temps où on ne parle pas. Et donc, où à mesure que le monde se découvre, tous les psychologues le disent, la voix se crée avec la langue qui vient. Et le style est sans doute à l'origine, enfin, vient de ce temps très archaïque où le langage se crée en nous en même temps que le monde se découvre. Donc indissociable ensuite de nous. Alors j'ai posé la question, qu'est-ce que le style ? À plusieurs artistes, écrivains ou poètes, dont je me sens proche, c'est un choix parfaitement subjectif. Le poète Dominique Fourcade me répond. J'ai exigé qu'il me réponde par écrit. J'ai mené ma petite enquête et j'ai embêté tout le monde. Alors, affaire énorme, tout à fait brûlante, gouffre, en même temps absolument invraisemblable comme sujet, me répond Dominique Fourcade. Et puis, il enchaîne. Le style est soit ce à quoi je ne comprends rien, soit ce qu'un écrivain préférerait, entre toutes choses, ne pas avoir. Là, on est dans cette idée de style péjoratif, au sens d'exercice de style. Soit la battue d'une relation, immédiate ou non, avec le mot, la syllabe, le sens son, dans le temps-espace. Affaire intérieure, langue à l'intérieur de la langue, dont nul écrivain n'est pleinement conscient, et moins encore le maître, battu, mieux rendu peut-être par le mot anglais « beat », une cadence fatale en même temps qu'une vertigineuse liberté d'allure, une continuité insensée, quelque syncopée qu'elle soit, cette idée de continuité. Voix, déterminée par les possibilités données à la parole par l'ouverture du dire, en cascade très stricte, voix déterminante, mais voix de personne, voix qui ne veut rien et qui, à la limite, ne veut pas d'elle-même. Dominique Fourcade. Claude Simon, beaucoup plus laconique, propose « manière d'être ». Frédéric Boyer. Le style, c'est la fuite, ce qui nous échappe. Ou n'est-ce rien d'autre qu'un mot de plus pour ne pas avoir à nommer, affronter ce que toute action littéraire dévoile comme mouvement pur et froid. Là, on a cette idée qui revient aussi d'involontaire. On n'a pas le choix. Et la fuite. Une amie photographe, Jeanne Hilary, me dit très simplement ce dont on ne peut s'empêcher. Camille Laurence. Le style est la voix, à nouveau, de l'écrivain. Il paraît que les cordes vocales ont la même caractéristique que les empreintes digitales. Elles sont uniques, propres à chaque individu. L'origine du style tiendrait à cette différence. Le style serait ce qui fait de l'écrivain, comme le dit Gide, le plus irremplaçable des êtres. On le reconnaît donc à son style, comme on reconnaît quelqu'un à sa voix ou à ses empreintes, à ses emprunts aussi, sans doute. Car le style se forge, bien sûr. Il n'est pas donné d'emblée. Il fait son miel des autres voix. Il est culturel, mais il ne s'apprend pas pour autant. C'est la rencontre unique d'un individu et d'apports musicaux extérieurs. On a cette idée de musique, cette idée de non-choix et en même temps d'apprentissage. Annie Ernaux. Le style est une façon d'énoncer le monde, propre à une époque, voire à une classe sociale, à un sexe, style féminin, entre guillemets, ou propre à un écrivain et lui seul. Dans ce cas, le style s'offre comme une voix singulière dont on peut certes analyser les composants, pointer les procédés, la manière très profonde, mais sans jamais expliquer, épuiser cette singularité. On aura beau arracher les habits, la peau même, le style, on n'atteint pas l'être. Et elle conclut en citant Flaubert, « C'est à lui seul, le style, une façon de voir les choses. » J'ai été obligée de couper, hein. Ce sont des extraits que je vous cite de toutes ces lettres. Alors, ce que je constate, c'est que d'abord, il y a une stupeur générale face à la question. On me dit « Que répondre ?» Claude Simon. « Quand j'écris, la question du style ne se pose jamais, Annie Ernaux. » Tous me disent ça. « Quelle drôle d'idée pourquoi vas-tu chercher ce mot ? Lis mes livres, la réponse est dedans. Bon. » Et puis, une fois cette stupeur générale passée, il y a un constat dont je suis moi-même partie ici, c'est-à-dire que le mot, sinon la chose, existe. Et qu'il faut donc bien en faire quelque chose. Il ne faut pas laisser, je crois que ça, les écrivains ont toujours ce souci, un espace vacant dans le vocabulaire. Ça, c'est énervant, intriguant, peut-être dangereux. Il faut faire quelque chose avec les mots puisqu'ils existent. Donc le style fait partie, c'est un mot de notre vocabulaire. Et puis ce qui m'a frappée enfin, c'est qu'évidemment, chaque définition manifeste le style de chaque auteur. Que ce soit Annie Ernaux, Dominique Fourcade, on entend le travail de chaque écrivain dans son écriture, justement, dans ses lettres. Et les mots qui reviennent sont voix, monde, vision du monde, être, rythme, musique, et cette idée d'involontaire. En parallèle, j'ai aussi posé la question à Olivier Cadio, qui est un autre poète, qui m'a parlé de moteur de mobylette, de choses très techniques comme ça, le style. Et en fait, qui m'a renvoyé à son travail avec Pierre Alféri dans sa revue de littérature générale chez POL. Alors, c'est très intéressant parce que ce sont des poètes, des jeunes poètes qui... Il y a quand même, ces derniers temps, me semble-t-il, un certain vide dans la critique. Depuis le structuralisme, c'est comme s'il y avait une grande claque et puis là, on essaie de s'en remettre un peu. On fait fonctionner les moteurs de mobylette. On cherche. Et alors, Alféri et Cadio sont des poètes qui ont fait appel à d'autres auteurs et aussi des critiques pour repenser un peu la théorie de la fiction et faire des théories jetables, comme ils disent. C'est-à-dire qu'il y a une théorie par revue. Pour l'instant, deux. Une de leurs idées, c'est que tout objet de la langue peut, par diverses manipulations, alors ça peut être la citation, l'échantillonnage, la technique du sampling, un peu comme dans la musique techno-contemporaine, la réduction, la fractalisation, la distorsion, la traduction, qui est aussi une manipulation. Tout objet de la langue peut devenir un ovni, c'est-à-dire un objet verbal non identifié. C'est-à-dire un objet qu'on va pouvoir intégrer dans un texte, un continuum, à la production duquel il va participer. Et on se rend compte que le style peut devenir un de ces objets. On peut prendre un alexandrin, puis l'insérer, le réduire, le compacter, etc. On peut prendre une épithète homérique, on peut prendre un souvenir d'enfance, une recette de cuisine, le catalogue des Trois Suisses, tout ce qu'on veut. Mais on peut aussi prendre un genre tout entier, le sonnet, voire l'épopée, et on peut prendre le style, un style. C'est ce que fait d'ailleurs Butor dans Le génie du lieu, ce dont je vous parlais. On va pêcher plusieurs styles et les compacter ensemble. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que l'auteur, comme auctoritas, c'est-à-dire celui qui a le regard définitif sur son texte, celui qui est à l'amont de son texte, l'autorité sur son texte, l'auteur en ce sens disparaît. Mais pas le lyrisme d'ailleurs. Je cite Cadio et Alféri. Avec ses maquettes de forme, ses styles en réduction, l'unité n'aurait en tout cas plus rien d'une incarnation globale dans un style qui serait un homme. Il n'y aurait plus rien d'intime. Elle ne devrait plus rien à la signature d'un auteur et tout à la continuité d'un parcours transstylistique. Passagèreté des styles, passage des frontières au vol. Je note que ce joyeux transstylisme rend totalement caduque l'idée d'une frontière entre prose et poésie. Nous y voilà. Puisqu'en fait, tout objet peut devenir du texte, tout simplement. Il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de frontières, il n'y a que des passages, passagèreté des styles. C'est-à-dire que les anciennes formes se réactivent, peuvent se redéployer, peuvent participer à des nouveaux textes et échappent peut-être, mais rien n'est joué, à la sclérose du cliché, justement. On peut ainsi réactiver, produire... gagner une liberté supplémentaire, comme ils disent. Ils appellent ça la concurrence des voix ou le tressage des plans du texte. Et ils voient la littérature comme perpétuellement à réinventer, une machine à créer de l'émotion. Et j'aime bien cette idée de justement se débarrasser un peu de cette sentimentalité qui nous vient du 19e et pour laquelle effectivement il y aurait inspiration. Non, on travaille, on écrit et c'est d'abord... du travail, de la technique, on lit, on écrit, on invente, mais on n'invente peut-être pas tant que ça, on travaille, on réécrit sans cesse. Machine à créer de l'émotion. Donc, pour conclure, après avoir passé en revue plusieurs définitions possibles, plusieurs visions possibles du style, ce que je retiens de cette petite enquête personnelle, c'est que face à la phrase... Las et vaincu, tout a déjà été dit. Ou face à cet à quoi bon qui domine par endroits le discours en France sur la littérature, avec d'ailleurs cette illusion tenace que l'avenir de la littérature est, suivant les modes, soit à chercher en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Il me semble que face à tous ces topos sur la mort de la littérature, bah, les auteurs vivants, à tous les sens du terme, vivants, qui travaillent là, ben, font preuve de beaucoup de réactivité quand on leur propose un mot comme ça. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est prendre un mot et jouer avec. Eh ben, le mot style, prenons-le. Et effectivement, je me suis aperçue que d'abord, ça a déclenché de l'énervement chez les écrivains, ce qui est toujours bon signe, et qu'ensuite, eh ben, ils cherchaient. Et qu'après, ils s'en débarrassaient pour pouvoir continuer à travailler, tout simplement. Il me semble d'ailleurs que le travail que Mallarmé a signé au poète, encore une phrase célèbre, « donner un sens plus pur au mot de la tribu », doit concerner tous les aspects du travail littéraire, prose, poésie et critique, que là aussi les frontières sont très souples, que ce sont des distinctions fastidieuses. En tout cas, je dirais que le propre de l'écrivain est de prendre son temps et que l'écriture avance au rythme de ce temps, ni plus ni moins. Et que le style n'est peut-être qu'une façon de passer le temps, d'épouser son rythme, tout en échappant à son emprise. C'est sans doute ça, écrire. C'est-à-dire que le style serait une absence à soi-même prise dans une cadence. Voilà, je m'arrêterai là. Merci.
Bonjour. Donc, en vous écoutant attentivement, il m'est venu une question. Est-elle absurde ? Peut-on traduire un style ?
Pardon, comment ?
Peut-on traduire un style ?
Oui, c'est une question très intéressante. Justement, en réfléchissant sur la notion, je me disais que si le style est plus ou moins assimilable à la voix, le bon traducteur, c'est celui qui va respecter la voix. Alors j'ai eu affaire à plusieurs traducteurs, j'ai eu la chance de voir mes livres traduits dans plusieurs langues. Et je parle quelques langues, donc j'ai pu un peu regarder. Il y a deux styles, pour aller vite, de traducteurs. Il y a celui qui va essayer de respecter le sens, et celui qui va essayer de respecter le ton, la voix. Celui qui respecte le sens va traduire, évidemment pas mot à mot, mais va chercher à respecter toutes les nuances signifiantes de la phrase, quitte à perdre sa musique. Il me semble, à mon avis, le bon traducteur, celui que personnellement j'apprécie, c'est celui qui va peut-être laisser tomber certains morceaux du sens pour respecter la cadence musicale de la voix, c'est-à-dire transférer la voix française dans la voix anglaise ou espagnole. Et j'ai une très bonne traductrice américaine qui s'appelle Linda Coverdale qui a pu laisser tomber peut-être, je n'ai pas entièrement relu le livre, les deux premiers livres qu'elle a traduits, mais qui a pu laisser tomber certains aspects du sens, mais qui a, il me semble, parfaitement respecté la musique des voix qui parlent dans mes livres. Voilà. Donc le style est plus ou moins transférable si on essaie de garder la musique.
Monsieur.
Oui, j'avais deux questions. La première vient d'être posée par monsieur. Je pose la deuxième. Vous avez dit tout à l'heure, en citant Barthes, qu'on a l'auteur, le style et l'écriture. Mm-hmm. Pour être sûr que j'ai compris quelque chose, avec le risque que vous me disiez que c'est un autre problème, c'est quoi alors l'écriture ? En vous inspirant ou non de Barthes ?
L'écriture, ça serait... Je vais peu m'inspirer de Barthes, j'aurais trop peur de trahir son idée, mais à mon avis, l'écriture, ça serait ces rares moments de choix quand on est sur sa page. C'est-à-dire qu'effectivement, le style, on n'a pas le choix. Ça vient d'une cadence qui est imprimée en nous, ça va venir de, je ne sais pas, d'une mémoire enfouie, de choses extrêmement archaïques qui nous forment. L'écriture, ça va être ce moment où, très technique, où par exemple, je vais hésiter entre deux adjectifs, où je vais, je ne crois pas qu'on hésite entre deux histoires, je ne crois pas qu'on hésite entre deux thèmes, ou alors c'est pour les remettre à plus tard, mais ça restera à écrire. Je crois qu'on hésite sur le moment de l'écriture, à la relecture, là, je parle de mon expérience parce que ce sont des expériences très intimes. Hein, mais, j'écris un premier jet. Je n'ai peut-être pas le choix à ce moment-là. Quand je le relis, je vais, par exemple, tomber sur des répétitions. Cet adjectif, je l'ai mis à la page précédente, c'est un peu trop rapproché. Alors, est-ce que je vais trouver un synonyme ? En même temps, il faut que le rythme de la phrase soit préservé. On arrive là à des moments où on peut passer des journées entières sur un mot ou sur une virgule. Peut-être que c'est là l'écriture. Peut-être que c'est ce niveau-là de choix. Et puis je pense que Barthes envisageait aussi les choses d'une façon plus politique, plus sociale. Ça a un rapport avec l'engagement, avec ce qu'on va décider ou pas de dire. Moi, ça me concerne moins, mais il y a des écrivains qui font aussi passer des messages. Bon, voilà. Je crois que c'est plutôt de ce domaine-là.
Monsieur, ici.
Bien, je voulais vous poser la question suivante que je me pose. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que le style d'un auteur, dans la mesure où cet auteur est un artisan qui se sert du langage, et la façon dont il attrape ses outils et le contenu de sa boîte à outils ?
Mmh. Oui, à cette idée d'artisan, effectivement, on peut aussi prendre le problème par ce côté-là. Le contenu de la boîte à outils... oui, la boîte à outils, c'est peut-être le style. C'est-à-dire, on arrive avec. Je ne sais pas si on peut acquérir vraiment un nouvel outil. Il y a un apprentissage, comme disait Camille Laurence, de là à acquérir vraiment, si on est plutôt ciseleur, est-ce qu'on va devenir marteleur ? Je ne sais pas. Et après, il y a effectivement la façon de procéder. C'était ça la deuxième... le travail, la... Oui, c'est une bonne métaphore, la boîte à outils et puis la façon dont on va s'en servir. Ça peut être une bonne métaphore du style, oui.
Monsieur, puis ensuite monsieur. Oui.
Là-bas, une, tout à droite. Tout une observation, une question. Il y a un film qui s'appelle, je crois en français, Chronique d'un amour fou, avec Ben Gazzara et Ornella Muth. Il y a un discours très, très intéressant à propos du style.
Je ne l'ai pas vu.
Oui. Et je vous conseille.
D'accord.
Il y a aussi un grand écrivain, un excellent écrivain, à mon avis, brésilien, qui s'appelle Machado de Assis. Il a dit « J'achète la viande à n'importe quelle boucherie, mais je mets ma sauce. » Est-ce que les styles, c'est une sauce ?
Je ne crois pas que ce soit la sauce, parce que là, on retomberait sur cette idée d'ajout, de surplus. Non, je crois que c'est beaucoup plus intrinsèquement la fibre de la viande. Ouais. dans cette époque de vache folle.
Et oui, vous êtes parti d'un sujet dont vous nous avez dit ne pas être spécialiste. Néanmoins, vous l'avez choisi. Et ma question est plutôt personnelle. C'est qu'est-ce que vous avez tiré de cette expérience ? Et quelles contributions vous appréciez, vous estimez que ça peut avoir sur votre démarche personnelle, sur ce désir qui dure, sur cette singularité dont vous nous avez parlé.
Bon, alors pour l'anecdote, ajouté à mon CV, ce mot de style, en fait, je l'ai rencontré pour la première fois, si on peut dire. Je devais avoir 14 ans et un prof de français du lycée de Bayonne, confiant en mes talents, m'avait proposé pour le concours général en littérature et m'avait un peu préparée. Et je suis tombée sur cette question. Qu'est-ce que le style ? Et je suis restée muette. Je ne savais absolument pas traiter cette question. Et je me suis complètement rétamée. Et ça m'est resté comme un énervement. Donc je... Quand Yves Michaud m'a proposé un sujet, je me suis dit, bon, ben, celui-là, le concours général Bayonne 1980 et quelques. Et donc, ce que ça m'a apporté, c'est d'abord de voir que, ben, en travaillant, on pouvait arriver à dire quelque chose. Au départ, mon idée, c'était effectivement de voir un peu ce qu'avaient dit les critiques, en quelque sorte homologuées, Barthes, Genette. Et puis, c'était quand même un peu sec, ça n'allait pas à ma pratique à moi. Même si c'est, à mon avis, intéressant. Donc, j'ai eu cette envie d'aller voir les écrivains. C'est un peu là que ça a démarré dans ma tête, que j'ai trouvé un vrai plaisir à voir ce que les autres en disaient. Et ce que ça m'a apporté pour finir, c'est que On m'a opposé tellement de fois cette idée que chacun de mes livres avait un style différent, alors que moi, je sais très bien qu'ils ont le même style. C'était une intuition que j'avais qui était très forte. Et je me suis dit, bon, il faut que tu clarifies ton idée là-dessus. Il faut que tu puisses en parler clairement. C'est aussi... ça peut être difficile d'être écrivain dans la société. C'est aussi une façon pour moi de m'armer, tout simplement, d'avoir des outils pour pouvoir parler de ce que je fais, ce qui est assez important si on ne veut pas rester muette. Il y a deux genres d'écrivains, hein. Il y a ceux qui ne parlent pas et ceux qui parlent. Si on choisit de parler, autant avoir des bonnes armes, quoi. Voilà.
On va prendre encore deux questions, monsieur et madame.
Oui, alors juste un mot, je reviens à la boîte à outils, non pas par obsession de bricoleur, mais en restant tout à fait sur le plan très matériel de la chose. Je me souviens, il y a X années, une jeune femme qui préparait une thèse sur les façons qu'avaient les écrivains de s'entourer de leurs objets, d'écrire, nous avait demandé à un certain nombre d'auteurs, avec quoi écrivez-vous, le crayon, une pointe plus ou moins fine, la pointe bic, etc. Alors, cet environnement purement objectal me paraît assez intéressant, bien que le style, c'est toujours l'homme, bien sûr, mais ça peut être aussi le crayon. Et d'autre part, alors ce qui me paraît plus actuel, c'est d'extrapoler ça. J'ai constaté chez un certain nombre d'amis écrivains la transformation de ce que vous appelez le style, pardon pour ce gros mot, depuis qu'ils ont adopté le traitement de texte. Mmh. Alors, cette espèce de dérive vers les instruments de la modernité et la modification que ça peut avoir, qu'en pensez-vous ?
Effectivement, Marguerite Duras... avait dit à mon éditeur, à Paul, que quand elle était passée au traitement de texte, ça avait changé des choses. Mais je ne sais pas quoi exactement, il n'a jamais pu me dire exactement. Moi, j'écris avec les deux moyens. Le livre que je suis en train de travailler en ce moment, je l'ai d'abord écrit, le premier jet, à la main, dans des cahiers. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Les trois livres précédents ont été tout de suite écrits par traitement de texte. Ça dépend du livre... Les trois livres précédents étaient des livres que je voulais relativement rapides dans leur rythme, relativement. Des livres assez courts. Le traitement de texte allait bien. C'est difficile à expliquer. En tout cas, par opposition, le livre que je suis en train de travailler est un livre plus long, tout simplement, et qui ne procède pas du tout narrativement, qui procède plutôt par touche. Bon. C'est un livre qui essaie de reproduire sur la page le fonctionnement du cerveau. C'est très, bon, c'est très, mais ça reste romanesque. Mais j'ai eu besoin pour ça, spontanément, de quitter l'ordinateur et de prendre des cahiers où je pouvais griffonner dans tous les sens. Parce qu'il y a une chose qu'on perd à l'ordinateur, c'est la rature. Vous savez, il y a ce jeu de mots, je crois d'ailleurs que c'est de Barthes, littérature. La littérature, c'est relire sans cesse ses propres ratures. Et effectivement, à l'ordinateur, à moins d'être une pro et de faire des fichiers avec ce qu'on a effacé, ben, à la place de la rature, on a, clac, une nouvelle phrase toute propre, toute belle, avec l'aspect fallacieux d'ailleurs du définitif. Et moi, j'ai eu besoin pour ce livre-là, celui de ce moment, de pouvoir rayer... en ayant la possibilité de retrouver sous la rature ce que j'avais rayé et de le retravailler, mais au crayon très fin, avec plusieurs étages, des flèches, etc. Bon, c'est toute une méthode qu'on réinvente. Oui, ce genre de choses. Donc effectivement, est-ce que ça change le style profondément ? Je ne crois pas. Je crois que par contre, là, on peut prendre la distinction de Barthes. Ça, on peut travailler l'écriture d'une façon ou d'une autre, avec un ordinateur ou à la main. Voilà, c'est l'aspect plus technique des choses.
On va prendre la dernière question, madame.
Oui, ma formulation sera...
Parlez bien dans le micro, parce qu'on ne vous entend pas.
Non, je ne me lève pas. Ma formulation sera peut-être un petit peu maladroite, mais vous avez parlé de voix, de cadence, de respiration. Est-ce que cette voix à laquelle on répond quand on écrit, vous l'associez, vous accepteriez de l'associer, d'accepter comme synonyme une jubilation ? Ou bien est-ce que cette voix, alors cette voix jubilatoire serait la seule qu'on écoute, ou bien à voix, vous associeriez d'autres termes, y compris celui de douleur, y compris celui d'inquiétude, y compris celui d'angoisse, qui pourrait être aussi des voix que l'on écoute. Ou est-ce que vous associez au mot voix simplement cette idée de plaisir extrême ? Et qu'est-ce que vous mettez ? Est-ce que vous arriveriez à définir ces instants privilégiés de jubilation. Au fond, il y a plusieurs questions dans mon intervention.
Bon, j'ai déjà superposé à style le mot de voix, donc on ne va peut-être pas faire des empilements comme ça. Mais effectivement, bon, jubilation ou douleur, c'est un autre niveau, c'est le niveau plus psychique, disons, psychologique. Il se trouve que dans mon cas, écrire est d'abord un plaisir. Mais je connais des écrivains pour qui c'est une douleur. Bon, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Je ne crois pas que ça ait à voir avec le style directement, au sens où on ne naît pas, me semble-t-il, soit du côté de la jubilation, soit du côté de la douleur. Il me semble qu'on naît plus ou moins avec un style. Enfin, l'enfance forge le style. Jubilation et douleur, c'est autre chose, ça dépend des moments. Je peux dire que l'écriture est pour moi une bonne façon de lutter contre la dépression, tout simplement. Je ne suis pas la seule d'ailleurs, c'est-à-dire que tant que j'écris, ça va, mais il y a des moments de très grande joie, il y a des moments d'inquiétude, de douleur jamais quand j'écris. Mais je répète, quand je me mets à ma table, je ne suis plus là. Ce qui écrit en moi, ça n'est pas ma psychologie quotidienne, ça n'est pas ma vie quotidienne, c'est beaucoup plus profond et j'ai pas forcément envie d'aller voir ce qui écrit en moi. Ça écrit, c'est déjà une grande chance, une grande joie.
Marie Dariussecq, merci beaucoup.
Merci à vous.